Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, chers et fidèles auditeurs et auditrices du Club de la Presse. Vous êtes câblés sur Canal FM ou encore sur les radios partenaires, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière en Europe, mais également les radios numériques, Ebene Radio, Radio Le Bénin ou toutes les autres applications numériques par lesquelles vous êtes en communion, en communication directe avec nous depuis le studio J. Nous saluons, remercions les techniciens Victor Gbekoku, Michel Tominga et Jérôme Dakoucha. Pendant que les confrères et notre invité d'aujourd'hui s'installent dans le studio autour de moi, le temps que je partage avec nous tous cette pensée du jour que nous avons déjà partagée une fois, mais que nous rappelons aujourd'hui, qui dit « Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez plutôt l'enseignement. » Encore une fois, dans chaque épreuve, ne recherchez pas l'ennemi, mais recherchez plutôt l'enseignement. 1er juin, journée nationale de l'arbre, c'est le lancement solennel de la campagne de reboisement pour l'année 2023. Nous allons en parler dans la foulée. Nous allons revisiter cette table ronde qui a réuni des chefs d'État, des plénipotentiaires hier à l'hôtel de Février, redonner une nouvelle énergie, redonner un nouveau souffle à notre agriculture en capitalisant nos sols et en recherchant les engrais appropriés pour améliorer nos rendements. Pendant que l'actualité politique est ce qu'elle est et que le recensement électoral va démarrer dans quelques jours dans la partie 3 au grand nord du Togo, et que les partis politiques viennent de terminer leur feuilleton de congrès statutaire avec le service après-vente qui apparemment n'est pas toujours très aisé dans les rangs de certains partis politiques, dont le comité d'action pour le renouveau, le cas pour lequel nous avons en ce studio Monsieur Nador Aoukou. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bien, ça fait bien longtemps et je suis heureux de te retrouver.
Mais dites-moi, comment est-ce que je devrais vous présenter dans les circonstances du moment, dans les rangs du CAR?
Non, disons qu'avant qu'on aille au congrès des 29 et 30, j'étais le deuxième vice-président national.
29 et 30 avril?
Avril, j'étais le deuxième vice-président.
Deuxième vice-président national?
National du parti. Mm-hmm. Parce que en son temps, Maître Agbeba était le président national. Monsieur Konlani, le premier vice-président national, et moi, Nador, le deuxième vice-président national. Mm-hmm. Maintenant, quand on est allé à notre congrès des 29 et 30, les difficultés qu'on a connues et les propositions qui sont sorties de ce congrès-là ont fait de moi le premier vice-président national du parti, et en faisant de Monsieur Konlani le président national du parti pour la transition. Mm-hmm. Maintenant, dans les développements qui vont suivre, nous allons donner d'autres détails.
Merci pour ce statut pour lequel vous êtes à nos côtés. Je rappelle qu'en début de semaine, nous avons reçu votre camarade, M. Nicolas Kokou Agbo, qui, lui, se retrouve deuxième vice-président sur la liste du président élu le 27 mai, savoir Daté Yao. Nous aurions souhaité vous avoir, vous deux, en même temps, mais comme ça n'a pas été possible, aujourd'hui, c'est M. Nador Aoukou qui est avec nous. C'est pour aider les militants sympathisants du CAR et toute l'opinion à bien comprendre ce qui se passe au sein de ce parti. Et surtout, quelle est la destinée de ce parti. Les confrères que je vous présente dans l'ordre d'arrivée, Elom Kossi Atichogwe de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux confrères et bonjour à notre invité.
Jean-Houlo Polorini de Canal D. Bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour aux confrères en studio. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM. C'est un plaisir partagé de vous retrouver dans ce studio bleu depuis plusieurs semaines. Je devais être là la semaine passée, mais Ça, tu sais pourquoi je n'étais pas là.
Je devine un peu. Michel Yao Tchadja de Ouara les Vainqueurs. Bonjour.
Bonjour, Sass. Bonjour aux confrères. Et puis bonjour, Canal FM.
Ouais, je sais que Michel démarre comme un moteur diesel. Au fur et à mesure que la gamme va monter, les auditeurs vont sentir. Maintenant, le Benjamin de la classe, Magloa Teko Kenvi de Flambeau. Bonjour.
Bonjour à toi, Sass Gao. Bonjour, confrères Michel et Jean. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Qui nous
Merci. Le menu est assez étoffé. Je compte sur vous pour la synthèse de vos commentaires pour que nous puissions aborder tous ces sujets. Et avant que nous embrayons sur les auditeurs à partir de 12h, quand ils vont entrer en ligne sur le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Commençons l'émission par ce carnet noir et que rappellent les journaux aujourd'hui. Le dialogue qui titre la page 3, Togo, coup conditionnel, Aboudou Assouma attirer sa révérence. Ouara les Vainqueurs en parle lui aussi à la page 6. Décès de Aboudou Assouma, une grande perte pour le Togo, pendant que le journal du Togo écrit lui aussi que le Togo pleure un grand homme d'État. Michel, comme ton journal l'écrit si bien, Aboudou Assouma qui est parti à l'âge de, respectable de 78 ans, il a été omniprésent sur la scène politique du Togo comme magistrat, comme ministre, comme défenseur des droits de l'homme à la CNDH et surtout les 16 dernières années, c'est lui qui a présidé la Cour constitutionnelle, c'est lui qui a proclamé les résultats définitifs des élections législatives aussi bien présidentielles. Voilà quelqu'un que le Togo vient de perdre.
Le président de la Cour constitutionnelle dans un pays, c'est une grande autorité. Parce que de par sa position sociale, je pense que ça, il fait partie des plus hautes autorités de l'État. Et lui, particulièrement, comme tu l'as dit, il a présidé aux destinées donc, de notre Cour constitutionnelle depuis près de 17 ans. Ce n'est pas rien également, 17 ans à la tête de cette grande institution. Je pense que il a fait montre de ce qu'il peut faire. Il a, en tout cas, à mon avis, participé au maintien de la paix dans notre pays. Et aujourd'hui, et comme cette personnalité nous a quittés, je trouve que c'est une grande perte parce que on peut l'aimer ou pas, mais ces messieurs, pour ceux qui le connaissent très bien, le disent, il est tellement dense, il a une vue d'ensemble sur tout le pays et pendant près de 17 ans il a fait en sorte que sur le plan constitutionnel, qu'on n'ait pas beaucoup de difficultés, parce que rappelez-vous que en 2018, après l'élection donc législative, c'était dit que les présidents de l'Assemblée nationale devaient, en tout cas le président devait être élu pour un an. Rappelez-vous. Mm-hmm. Et je pense que c'est lui avec les autres sages qui ont dit que non, c'est anticonstitutionnel, ça ne fait pas, notre constitution ne le dit pas, et donc on en est resté là jusqu'à ce jour où on a un seul président
de plutôt une seule présidente de l'Assemblée nationale,
une seule présidente, j'ai toutes mes excuses, une seule présidente de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui que cette personne n'est plus, nous a quittés, qu'on ne l'aime ou pas, je pense que pour notre pays, c'est une grande perte.
Merci. Aboudou Assouma, il a été juge d'instruction, substitut au procureur de la République, procureur général près la cour d'appel, vice-président de la CNDH à sa création en 1987. Il a été pendant un bref moment ministre délégué à la Défense nationale. Il a été aussi et surtout pendant près de 17 ans président de la Cour constitutionnelle, un magistrat bien connaisseur du droit. Certains estiment qu'il a servi avec grande fidélité aussi bien Nyasingbe. Il y a des manques forts Nyasingbe. C'est sûrement ce qui amène Flamme des démocrates à titrer ce matin « Curieux silence de l'exécutif » que 6 ans après sa disparition, le constat, six jours après la mort de Abdou Assouma, le constat est alarmant, je cite Flambeau, que l'exécutif togolais continue à se murer dans un silence sépulcral, ma gloire.
C'est bien là le constat que tout le monde fait, et on se demande pourquoi on en est arrivé là justement. Michel, dans son développement, a retracé le portrait robot de ce grand homme du pays, qu'on l'aime ou pas. Vous avez vu tout son parcours, et quelqu'un qui a présidé au destiné, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle, qui se veut la plus haute juridiction du pays pendant 16 ans, c'est pas rien. Et ça témoigne de sa grandeur d'esprit, de la grandeur d'homme qu'il incarnait. Mais on ne peut pas donc comprendre que cet homme-là, qui est mort en plein exercice de son pouvoir, et que 6 jours après, l'exécutif togolais ne place ne serait-ce qu'un seul mot. De la présidence de la République jusqu'au gouvernement, en passant par même les institutions sœurs de la République, aucun d'entre eux n'a placé un seul mot, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de M. Abdou Assouma. Nous vous avons estimé que ce n'est pas normal. Et ça paraît curieux, parce que dès qu'une personnalité décède dans un autre pays, on voit l'émulation que ça crée ici, jusqu'à la présidence de la République. Le chef de l'État togolais, c'est un jeune, c'est un président qui est très connecté. Il n'hésite pas à tuer. Je me rappelle, le président du Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire, il est décédé. Non seulement il a tuté, mais il a pris son avion pour assister à ses obsèques. C'est bien qu'on puisse assister nos voisins dans des moments difficiles comme cela. Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui, pendant que tu es président de la République, est le président de la Cour constitutionnelle, qui décède pendant qu'il est encore au pouvoir ou exerçait son pouvoir, qu'on ne puisse pas placer un seul mot. Nous pensons que ça rime un peu au mépris. Mais est-ce que c'est vraiment du mépris? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ce silence-là, il est curieux, et il va falloir qu'on explique peut-être pourquoi on a décidé de ne pas saluer la mémoire de ce grand homme.
Merci. Même en l'absence de réaction officielle, nous apprenons quand même que les obsèques de Abdou Assouma seront célébrées le lundi 5 juin prochain. Dans la matinée, les hommages lui seront ou lui seraient rendus à la place des fêtes, à la présidence de la République, et juste après, la grande prière, enfin la prière à la mi-journée, au centre islamique Kadhafi, et après, Abdou Assouma, ses restes physiques iront reposer au cimetière de Adetikopé, qu'il a contribué à offrir à la communauté musulmane. Nous saluons sa mémoire, mais avant Abdou Assouma, nous avons enregistré des mots ces derniers temps, et c'est Flambeau qui nous les rappelle, en souhaitant le grand repos à ses personnalités, comme vous pouvez les citer tous, hein. Hassani Tidjani, ancien général ministre de son état, Maître Yaovi Agboibo, qui n'est plus à présenter, Edem Edouard Kodjo, qui n'est plus à présenter, Charles Kondi Mandjom Agba, et dernièrement, Agbasso Bertin, Abdou Assouma. Donc, et Flambeau rappelle que certaines de ces personnalités resteront gravées dans les mémoires, certaines entreront au Panthéon, et d'autres risqueraient de tomber dans les oubliettes de chacun et du pays, et à chaque Togolais de savoir apprécier. Et l'homme conseiller à Tichogwe, tous ces noms que Flambeau nous rappelle.
Oui, je crois quand même qu'il faut s'incliner devant la mémoire de tous ces illustres disparus, parce que quoi qu'on dise, c'est des Togolais, c'est des compatriotes qui sont quand même passés de vie à trépas, et c'est très important aujourd'hui de pouvoir le rappeler que nous sommes tous Togolais, peu importe le poste que nous occupons aujourd'hui, du balayeur de la rue au poste le plus important dans ce pays. Nous savons tous déjà que nous sommes d'abord Togolais et unis par une seule et même entité, c'est le Togo. Et qu'on le dise ou non, c'est d'abord le Togo. Et quand on a attaqué le Togo, hein, au niveau du nord du pays, en ce qui concerne la menace terroriste, vous avez tout de suite constaté que nous sommes tous restés unis pour condamner, et on a fait bloc derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre d'abord la patrie avant de rentrer dans nos petites dissensions et dans nos incompréhensions. Donc on souhaite un repos éternel à l'âme de ces illustres disparus et que la terre leur soit légère.
Que la terre leur soit légère. Jean Woulo, un petit mot à l'endroit de Abutu Assouma ou bien ces illustres personnalités que nous avons perdues ces dernières années.
Je ne voudrais pas reprendre le parcours de l'illustre disparu et de ceux que vous avez cités tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est de grands hommes que le Togo a perdu. C'est tous des serviteurs de l'État. Et moi, je dis que ce que nous retenons d'eux aujourd'hui, c'est les œuvres qu'ils ont accomplies, ni ce qu'ils ont emmagasiné ou ce qu'ils ont eu comme matériel, mais c'est les actions qu'ils ont posées qui resteront à jamais dans la mémoire collective des Togolais. Et c'est dire que chacun d'entre nous, pendant notre petit pèlerinage terrestre, attelons-nous à poser des actes qui vont glorifier notre nom, qui vont permettre à ce que, lorsque les Togolais se rappellent de nous, ils le fassent avec bonne intention, et que vraiment nos actes puissent faire des émules au sein de la génération à venir, et rappeler à tous les uns et les autres que la mort est un examen auquel personne d'entre nous ne va échapper. Quel que soit ce que nous faisons, quels que soient les postes que nous occuperons, postes élevés en autorité, qu'on soit balayeur de la rue, comme tu l'as dit, ou personne très élevée, sachons raison garder et sachant qu'un jour nous aurons à quitter cette terre, et comportons-nous les uns envers les autres et aimons-nous les uns les autres comme voilà, le Seigneur nous aime.
Merci. Michel?
Oui, je pense que par rapport à au débat évoqué par Flambeau démocrate concernant peut-être le silence du côté de l'exécutif depuis le décès du président Assouma. Je pense que c'est récurrent, ce genre de choses. Parce que vous vous rappelez, quand Aïcha Gadé Mouvedo était décédé, vous vous rappelez, vous le Fititi, on a appris beaucoup de choses comme quoi.
C'était des mastodontes du RPT.
Oui, des hauts commis de l'État, des gens qui ont, en tout cas nous, qui les voyons de très loin, nous estimons qu'ils ont servi loyalement l'État. Mais quand ils ont quitté, bon, les commentaires, c'est que, bon, ils n'ont pas été. En tout cas,
honorer
la hauteur, oui, à la hauteur de ce qu'ils ont posé comme acte. Il y a beaucoup d'autres cas sur lesquels je ne vais pas revenir. Je pense que au sommet de l'État, on doit commencer, en tout cas, à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que les gens servent l'État, et à un moment donné, on a l'impression quand ils vont quitter, on a l'impression que bon, que c'est comme bon, c'est rien quoi. Alors que nous, dans la population, nous voyons que ces gens-là, ces personnalités font ce qu'elles peuvent pour maintenir l'équilibre de l'État, pour faire en sorte que l'État avance. Et donc, quand elles quittent ce monde, il faut quand même qu'on sente une certaine chaleur autour de des familles de ces disparus-là, et tout ce qu'on fait pour les obsèques de ces personnalités. Je pense que on doit commencer à réfléchir au sommet, parce qu'il y a un problème à ce niveau.
Merci. Nando Raoukou, c'est pas vous l'État, mais vous êtes, vous avez été très proche de Maître Yavi Agboibo. Et je me rappelle toujours, Agboibo et Abudu Assouma ne se cachaient pas leur amitié. Ils se sont rencontrés au collège à Sokodé avant même l'indépendance. Agboibo et Abudu Assouma sont restés amis jusqu'à la mort. Peut-être qu'ils vont se retrouver dans l'au-delà, si c'est permis. Un petit mot à l'endroit de Abudu Assouma, Nando Raoukou.
Oui, non, moi je l'ai connu en 87 à Palimé, aux côtés de Maître Agboibo. Quand ils sont venus dans le cadre de la CNDH pour animer une conférence à la place des fêtes derrière le stade de Gomido, en face de l'école primaire centrale. Ce jour-là, ça n'a pas été facile. Et à la fin, M. Assouma m'a approché. Mais tu as été percutant, hein? Est-ce que tu ne peux pas me suivre? Je vais t'amener à Lomé, tu vas fréquenter. Tu vas être chez moi.
Ah, vous étiez encore à l'école à ce moment-là?
Et j'ai dit, mais... Il m'a remis sa carte de visite. Et puis après, je l'ai vu avec un maître Agboibo fonctionner sur un certain nombre de dossiers, beaucoup de dossiers. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est quelqu'un qui est fidèle dans l'amitié. Au point que quand maître Agboibo est décédé, il a rendu un hommage. Alors là, extraordinaire à maître Agboibo à Couvé là-bas. Sur leur parcours.
Alors
leur
que sa santé commençait déjà à décliner.
À décliner. Et donc, disons qu'il repose en paix. Et comme tu l'as dit, si de ce côté-là, on peut se voir, il faut qu'ils se voient et qu'ils reprennent leur amitié et qu'ils continuent de l'entretenir là-bas comme ils l'ont fait ici-bas.
Merci. Ouais. Cela nous introduit donc à l'objet de votre invitation à ce studio. À la mort d'Agboibo, vous étiez deuxième président national du CAR. Maintenant, après les péripéties de vos congrès fermés, congrès réouverts, vous êtes le président de l'instance de transition, c'est ça, monsieur Aoukou Nador.
Naturellement. Vous savez, nous avons organisé notre congrès les 29 et 30 avril dernier. Mm-hmm. C'est vrai que le congrès s'est achevé sur une incompréhension, mais la chance que nous avons, c'est que nous avons mis en place quatre commissions, notamment la commission qui doit étudier les statuts proposés au Congrès pour adoption par le Bureau national, une commission qui doit revoir notre plan d'action, le programme d'action du parti, et une commission qui doit réfléchir sur les élections, puisque les élections en vue, nous avons fait le choix d'y participer. Mm-hmm. Et la commission, il y a la quatrième que nous appelons la commission spéciale, qui est une commission qui réfléchit sur les personnalités qui peuvent siéger dans les organes prévus par les statuts. Ce qui a accroché l'attention des gens, à mon observation, c'est que c'est beaucoup plus le Bureau national. Or, à la tête du Bureau national, c'est le président national. Et donc, il y a beaucoup d'intentions qui étaient manifestées, notamment 6. Monsieur Togbe Dagba a manifesté son intention de diriger le parti. Monsieur Konlani Yendouba aussi. Monsieur Kissi aussi. Monsieur Daté aussi. Madame Yemé aussi. Et moi-même, Monsieur Nador, j'ai manifesté l'intention de diriger le parti. Et donc, nous avons mis en place le bureau du Congrès, suivant nos statuts. Le bureau a été co-géré par M. Konlani et M. Etadi, et moi, j'étais leur vice-président. Et donc, nos statuts disent que c'est la direction du Congrès qui gère la commission spéciale. Et la commission spéciale est composée des présidents fédéraux. Nous en avons 47, mais en réalité, c'est 39 qui fonctionnent correctement. Mais nous avons nous-mêmes fait le choix de faire venir les autres aussi, surtout qu'on va aller aux élections pour qu'ils soient au parfum des informations, de façon qu'au sortir du Congrès, quand on va aller sur le terrain, on trouvera des gens sur qui s'appuyer pour faire le travail. Et donc, quand la commission a démarré son travail, elle a reçu 2 retraits de candidats.
Monsieur Nador, on ne va pas rappeler toutes les péripéties du Congrès, mais à la fin, au soir du 30 avril, est-ce que votre Congrès avait accouché d'un acte qui allait dans le sens de la transition?
Oui, et c'est ce que je voulais, c'est vers là que je voulais chuter. Nous avons fait défiler les 4 candidats restés en liste. Les présidents fédéraux les ont interrogés. Et finalement, tout le monde s'accrochait. Et les présidents fédéraux, ça c'était la journée de samedi. Mm-hmm. On a décidé de revenir le dimanche. Pour finir très tôt et faire tout ça là. Mais ça continue tard dans la nuit. Et les présidents fédéraux ont dit, comme nos candidats ne veulent pas céder, nous allons proposer pour adoption au Congrès une transition. Et la transition, c'est comment ça va se passer. Le président national étant décédé et bien d'autres dans le bureau, nous allons mettre en place un bureau composé de 11 personnes et dirigé par M. Conlani comme président national. Moi, je suis son premier vice-président national. On a décliné jusqu'aux 11 postes. Ensuite, la commission spéciale a proposé pour adoption au Congrès que les statuts, les anciens statuts restent en vigueur. Tous les anciens organes qui étaient là restent en vigueur. Et on va faire en sorte que eh bien, la transition ne dépasse pas 2 ans. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit forcément faire 2 ans, hein, mais c'est une indication.
2 ans maximum.
Voilà. Et maintenant, tout ce qui n'a pas pu nous aider à trancher le problème, nous allons le corriger. Et nous-mêmes, nous avons constaté que dans les anciens statuts, il y a eu quelques insuffisances. On les a pris en compte.
Donc, c'est cette proposition.
Voilà, on les a pris en compte dans le nouveau document.
Oui.
Mais toutes les difficultés que nous avons vécues aussi nous ont fait voir que le document que nous avions voulu proposer au Congrès aussi était insuffisant. Il faut alors prendre maintenant.
Alors, ma question, pour aller directement, rapidement, est-ce que cette proposition a été adoptée en plénière par le Congrès le 30 avril?
Voilà. Et quand on est allé, les coprésidents et moi-même, on m'a donné la parole, j'ai lu la chose et la grande partie des congressistes ont applaudi pour dire nous, c'est ça ce que nous avons décidé. C'est vrai qu'il y a une minorité qui a contesté la décision. Et c'est cette minorité-là qui a fait le bruit suivant les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, au sorti du Congrès...
Mais avant la sortie, une certaine école laissait entendre que à défaut pour les candidats de s'entendre sous forme de consensus, les deux arrivés en tête, à savoir Daté Yao et Togui Dagban, auraient dû passer par le suffrage des congressistes pour savoir ce qui allait présider le CAR.
Non, c'est-à-dire que c'est une sorte d'interprétation de la chose. Mais en réalité, nous n'avons jamais fonctionné comme ça. C'est-à-dire que quoi? Si vous voulez diriger le parti, c'est un scrutin de liste. Ce n'est pas un scrutin uninominal. On ne va pas voter pour vous et vous allez constituer votre gouvernement après. Non. Pourquoi? Parce que pour un parti politique, il faut tenir compte de la géopolitique, des compétences disponibles au sein du parti, pour que quand le bureau est élu, vous êtes sûr que vous avez toutes les compétences, toutes les régions, toutes les fédérations là-dedans, pour faire fonctionner le parti. Et c'est pour ça qu'on a privilégié le consensus. Quand la veille du Congrès, on s'est retrouvé au domicile du président fondateur, c'est ce que les présidents fédéraux ont dit. C'est le consensus. Quand on s'est retrouvé à la commission spéciale, ils l'ont réitéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les candidats pouvaient se concerter et dire, bon, nous proposons une liste à la commission spéciale qui l'étudie et voit, bon, si tous les critères sont pris en compte, et puis la commission spéciale ne vote pas. Elle fait maintenant amène la proposition au Congrès qui va le voter. Tout comme les travaux que les autres commissions vont faire.
Donc, vous réitérez que cette proposition allant dans le sens de la transition a été adoptée par le Congrès
le 30 avril. Et le président Conlani lui-même a donné des instructions aux deux rapporteurs de produire le rapport retraçant ça. Le rapport a été fait, un procès verbal a été fait concernant le bureau qui a été mis en place. Je vous assure que c'est le président Conlani lui-même, la nuit et dans la pluie, qui a travaillé à ce que le rapporteur fasse tout ça. Parce que quand on veut déterminer le rapporteur, on fait en sorte que quelqu'un vienne de l'intérieur et quelqu'un a l'omé pour que les deux fassent le travail, pour que celui qui a l'omé soit à portée de main. Et c'est lui-même qui est allé, il est allé même jusque chez lui pour vérifier tout est prêt. Il a signé, lui aussi, il a signé et il a instruit le chargé à la communication d'aller déposer. Il a déposé et on a fait la décharge. Ça veut dire que l'argument massue que les gens ont avancé, suivant lequel, si le 31, on ne reprend pas un congrès, on sera fou. Le 31 mai, on ne reprend pas un congrès, on sera forclos. Non, M. Conlani a déjà réglé ce problème lui-même le 15 mai. Le 15 mai, merci. Il a déjà réglé ça.
Merci, monsieur Nador. Mais
J'ajoute que dans la perspective de ce que la commission spéciale lui a recommandé, fait en sorte que l'entente revienne. Pendant qu'il est allé déposer le document, il a eu deux rencontres avec les candidats encore en lice pour dire,
aidez-nous, on fait comment. Moi, j'étais là, j'étais à une première réunion, à la seconde, j'étais pas là. Donc, ça veut dire qu'il a commencé par faire le travail de la transition. Et je ne sais pas pourquoi, il s'est dédié après.
Merci. Alors, nous sommes arrivés au 27 mai dernier, comme le rapport de le confrère Le Changement, réouverture du 5e congrès du CAR, le piège de la forclusion évitée de justice. Pour Le Changement, le congrès qui a été suspendu, ou bien qui n'a pas pu prospérer le 30 avril, a été réouvert le 27 mai pour éviter que le CAR ne tombe pas dans la forclusion. Une seconde. Et Le Changement continue. Donc, le piège de la forclusion évité de justesse de la nécessité pour le président d'Até de rassembler tous les protagonistes de la Grèce. Je rappelle donc au congrès réouvert le 27 mai, M. Daté a été élu à la tête d'un bureau. Et le autre journal, c'est Harakiri qui nous présente qui est Yao Daté. Yao Robert Daté, la nouvelle figure du CAR. On découvre que Yao Daté est un ancien chef de cabinet de feu Maître Yovi Agboibo. Il a été également membre de la CENI. Mais Harakiri continue que certains poids lourds du CAR continuent à dénoncer la tenue de ce congrès. Et ces poids lourds réitèrent leur attachement, leur appel à l'organisation d'une transition destinée à racoler les pièces éparpillées de ce parti avant d'aller prochainement à un congrès. Monsieur Nador, oui. Justement, quelle est votre lecture après que vos camarades se sont retrouvés le 27 mai pour réouvrir le congrès et doter votre parti d'un bureau?
De toutes les façons, je dis d'emblée que ce bureau-là n'est pas reconnu.
Par qui?
Par les instances installées par le parti le 30. Pourquoi? Parce que quand nous avons eu écho de la chose, nous avons fait une conférence de presse au domicile du président fondateur pour éclairer l'opinion sur comment le congrès s'est passé et les décisions qui ont été prises. Nous avons transmis tous ces documents-là aux journalistes qui étaient là. Moi-même, j'ai signé un document que j'ai envoyé au ministre de l'administration territoriale pour dire que ce qui va être fait là n'est pas conforme à nos tests. J'ai écrit au gérant de l'endroit où devait faire le congrès que non, que voilà, c'est parce que probablement vous n'avez pas su qu'il y a difficulté que vous offrez vos cadres, prenez les dispositions dans ce. Il m'a appelé, lui et moi on a échangé. Et
c'est je l'Amujette. Donc vous avez, en votre qualité de l'instance transitoire, oui, vous avez saisi le ministre d'État par Edouard Boupessi pour relever que le congrès du 27 mai n'était pas approprié.
Et j'ai annexé à mon courrier, oui, les documents que Colani a fait déposer. Mm-hmm. Dire, voilà, nous avons transmis à vos services ces documents-là, telle date. Donc, et dans nos tests, il n'y a aucune disposition qui parle de reprise. La seule chose qu'on peut faire, et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est que si à un moment donné, les présidents fédéraux qui ont initié la transition estime que, bon, ce n'est pas la même. On dit, s'ils veulent comprendre les deux tiers, mais si les deux tiers, ils rassemblent les deux tiers, ils vont déposer ça sur la table de qui? Sur la table du bureau national. Et le bureau national, c'est lequel? C'est celui qui a été mis en place par le Congrès et dirigé par qui? Colani. Maintenant, le document arrive, on n'appelle pas les autres membres, on voit ça circuler sur les réseaux sociaux, et M. Colani se prévaut simplement du titre de président du Congrès, et c'est à cette qualité-là qu'il fait toutes ces démarches. Non, quand le Congrès que toi-même tu as clôturé et tu as annoncé au Congrès si qu'on se voit au comité directeur le mercredi qui suit. Maintenant, pourquoi tu parles de réouverture et puis finalement on apprend encore que c'est une reprise. L'autre information, oui, que je devrais vous apporter, c'est que ce Congrès-là, nous avons écrit les documents dont je vous parle là, nous l'avons transmis aussi à M. Colani par voie d'huissier pour lui dire ce n'est pas ça qu'on a décidé. Ce qu'on a décidé, c'est la transition. Si vous faites faire un congrès qui débouche sur la désignation de quelqu'un, ça n'engagera que vous. Et si vous le faites, vous allez contribuer à diviser le parti. Lui et moi, on s'est vu à deux. Et je lui ai dit, président Colani, ce dans quoi tu veux engager le parti là, c'est dangereux, c'est suicidaire. revenons à la tradition, travaillons à ce que les esprits s'apaisent et qu'on aille très rapidement à un congrès pour que le parti soit sauvé.
Monsieur Nador, maintenant, le congrès a été réouvert ou repris le 27 et ce congrès a élu un bureau présidé par M. Daté Yao. Vis-à-vis de ce du bureau de M. Daté, quelle est votre position?
Je vous dis que ce bureau-là n'est pas reconnu. Le bureau qui est reconnu, c'est le bureau établi par le congrès. Maintenant, moi je suis serein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour où le congrès se tenait à Muchette, eh bien, nous nous sommes retrouvés toujours au domicile de Maître Yovia Gboibo pour une journée de réflexion. Les sept membres du bureau qui sont
de
dans
transition.
La de transition, qui sont dans la dynamique de la transition, les membres du comité directeur, certaines fédérations qui ne sont pas allées là-bas, et bien d'autres personnalités, nous avons réfléchi sur le thème de la nécessité de préserver les œuvres de Maître Aboibon. Et à la fin, c'est pendant qu'on finissait l'analyse des sujets et qu'on voulait tomber dans les perspectives que sur les réseaux sociaux, nous avons constaté que le congrès l'a accouché d'un bureau. Et la réunion a décidé que, puisque M. Conlani, qui est le président de la transition, s'est désolidarisé du bureau et a fait tenir un congrès comme ça, il n'est plus moralement indiqué pour conduire la transition. Et moi qui suis son premier vice-président, on m'a instruit de jouer le rôle de président de la transition pour faire en sorte que ce que le congrès a demandé à la transition, je le fasse pour que très rapidement, on aille à un congrès. Là-dessus, j'ai adressé un courrier au ministre d'État de l'administration territoriale que voilà la décision que une réunion a prise et la conduite a tenu. Le document est déjà sur sa table.
Merci, merci, monsieur Nador, pour ces explications. Oui, chers confrères et amis, Oulo.
Oui, moi, j'ai une question pour le président Nador. On a remarqué que le ministre d'État est devenu forcément un arbitre au sein de ce clash que vous avez au niveau du parti. Parce que chacun de vous se réclame avoir envoyé une note au ministre d'État. Vis-à-vis de cette position actuellement, comment comprenez-vous l'attitude du ministre d'État? Est-ce que c'est de nature, il est dans les règles de l'art, ou bien vous pensez qu'il y a une prise de position par rapport à ce que vous dites? Parce que l'autre camp aussi se réclame à voir.
Je ne sais pas si notre confrère a une question. Ok, monsieur Nador.
Oui, non, moi je crois que en fait, en réalité, le ministère n'est pas un tribunal. Vous faites votre congrès. Vous allez déposer les papiers, il fait la décharge, c'est fini. Maintenant, si nous jouons notre rôle, parce que le Congrès nous a mis en place, nous avons transmis nos documents, il y a un autre groupe, un sous-groupe de notre groupe aussi qui fait une démarche, nous avons tout simplement attiré l'attention du ministre sur le fait que nous nous sommes comportés conformément à la loi et ceux qui se comportent de cette façon-là ne sont pas dans la légalité. Maintenant, on est au Togo, et ce qui se révèle dangereux, c'est que les gens, et moi je n'ai pas de preuves là-dessus, les gens racontent que ces gens-là sont supportés par le ministre et que à Mujet là-bas, puisque moi je n'y étais pas, il y a eu un déploiement énorme de forces de sécurité, et je n'en sais rien, et puis que les gens appellent le groupe qui est sorti de là-bas le CAR Boukwessi. Et le groupe qui n'est pas allé, les gens l'appellent le CAR Agboibo. Et c'est pour ça que moi, dans un de mes courriers, j'ai dit, et j'ai fait même un audio, j'ai dit que je sais les relations traditionnelles que le ministre d'État actuel entretenait avec le feu président Agboibo. Et que je l'ai interpellé pour dire que par rapport à ces relations-là, il ne peut pas travailler à détruire le parti de Maître Agboibo, comme Colani l'a fait. L'histoire retient donc que c'est Colani qui a offert ce spectacle-là.
Nador, on prête à Nyasingbia Dema la phrase qui dit que si le mur ne comporte pas des fentes, le lézard n'irait pas se loger dedans. Voilà, merci d'être passé, donc nous donner votre version des faits. Vos militants, sympathisants, toute l'opinion appréciera comme on a écouté M. Nicolas Agbo le lundi dernier.
Oui, je voudrais vous lire une disposition de nos statuts. C'est à la page 51, le titre 8, discipline du parti. article 108, les membres du parti sont tenus de se conformer aux décisions du parti. Ils ont le droit d'exprimer librement leurs pensées sous réserve de se conformer aux dispositions des organes du parti. Il leur est par contre interdit de faire de la propagande pour le compte d'une autre organisation politique sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du comité directeur. Dans les assemblées où ils siègent, les élus doivent se conformer aux directives du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui, par exemple, contestent la décision que le Congrès a prise la dernière fois, moi, je suppose qu'ils sont dans leur rôle. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez exprimer votre désaccord. Mais les statuts vous disent, vous ne pouvez pas le faire à l'excès. Si vous le faites, c'est comme vous faites de la propagande contre votre parti. Et vous ne voulez pas que le parti survive. Et moi, je dis, nous allons travailler pour que le cas survive à Maître Agboibo.
Merci. Nous vous invitons juste à vous rappeler l'esprit et la méthode de votre feu président fondateur. Cet esprit, cette méthode vous guidera. Pendant ce temps... Oui, Magloire?
Non, je crois que c'est important que je place un mot. Parce qu'il y a une semaine, on se retrouvait dans ce studio. C'était pratiquement le même sujet avec nos amis de l'UFC. Et aujourd'hui, c'est avec nos amis du CAR. Mais en toute sincérité, M. Nador, dites-nous, est-ce que... vous pensez que de là où il est aujourd'hui, Maître Agboibo peut être content de vous, vous tous, hein, parce que à un moment donné, il était le président, mais peut-être il s'est dit, ben, j'ai suffisamment d'héritiers et je vous lègue le parti. Mais à un moment donné, il était encore revenu jusqu'à son décès. Est-ce à dire qu'il avait décelé en vous cette immaturité, on va le dire, de gérer cet acquis politique qu'il a construit, ou alors voilà, vous n'êtes pas capable de gérer ce qu'il vous a légué comme parti?
Nous en sommes capables. Et c'est pour ça que lors d'une émission sur une radio privée de La Place, pendant que les remous se faisaient sentir et quand préparait les congrès, je suis allé, j'ai dit, moi je suis heureux que des gens manifestent leur intention de diriger le parti à l'issue de notre congrès. Mais j'ai averti qu'on ne doit pas le faire à l'excès. Et que quand des gens décideront de le faire à l'excès, moi, je taperai du poing sur la table. Et c'est pour ça que tout en étant candidat, à un moment donné, je me suis retiré pour être au-dessus de la mêlée et jouer mon rôle. Et moi, je l'ai joué. Je l'ai joué. Et là, c'est les envies à l'excès. Et qui ne visent pas l'intérêt du parti, mais qui visent l'intérêt des individus qui donnent aujourd'hui l'impression à l'opinion nationale que nous ne sommes pas matures. Moi, je suis allé à l'école d'Agboibo, ça fait plus de 30 ans.
Nador, je vous rappelle que nous sommes à quelques temps des prochaines élections régionales et législatives. J'espère seulement que vous allez aider vos militants et sympathisants à se retrouver dans toute cette bataille politique.
Justement, Michel? Justement, c'est à cette question que je voulais... poser, en tout cas c'est cette question que je voulais poser à M. Nador. Est-ce que, à l'heure où vont les choses, vous pensez que votre parti a les moyens d'aller donc aux élections à venir? Est-ce que vous êtes capable, comme vous le dites, de travailler pour maintenir le parti CAR dans l'unité que votre ancien mentor vraiment a travaillé à maintenir jusqu'à ce qu'il ne quitte la terre?
Oui,
Monsieur Nador.
Oui, je crois que on en est capable. Et c'est pour ça que en allant au congrès, nous nous sommes fixés deux objectifs: revoir les organes et nous mettre en ordre de bataille pour les élections. Maintenant, on est allé, on n'a pas pu. On a mis en place un bureau de transition pour colmater les brèches. Et c'est pour ça que moi, j'interpelle nos amis qui sont allés à Mugette là de revenir à la maison pour qu'on s'entende. Pourquoi? Parce que du vivant de Maître Agboibo, avant qu'il ne meure, les dernières élections auxquelles nous avons participé, nous n'avons pas eu de résultat à la hauteur de notre parti.
Vous pensez que c'est réversible?
Et nous avons voulu...
Ils peuvent revenir, comme vous l'avez dit.
Je le pense. S'ils aiment le parti, je le pense. Et c'est pour ça que nous avons voulu être en rang serré pour affronter ces élections-là, pour voir si nous ne pouvons pas, pour rendre hommage à la mémoire de Maître Agbogbo, faire mieux que les résultats qu'il a eus avant de trépas, avant de quitter cette vie à trépas. Vous voyez? Et donc, moi, je considère que pour l'intérêt du parti et pour honorer la mémoire de Maître Agbogbo, nous sommes obligés de nous retrouver pour qu'on aille aux élections ensemble.
Encore une question, et ce sera la dernière sur le sujet.
Oui, je ne vais pas être long, je vais être bref. Parce que, vous savez, c'est un parti qui est un parti bien connu de la scène politique. Et Magloire a bien fait de préciser qu'il y a 7 jours, on était sur cette même antenne pour parler d'un autre parti. Mais aujourd'hui, on parle du cas. Moi, j'ai bien envie de savoir ce que pense Pascal Agbogbo de la situation. Parce que on se rappelle qu'au décès de Maître Agbogbo, on avait dit que son fils allait prendre le parti. Et aujourd'hui, il y a une crise. Depuis que le congrès pugilat, tout ça a été avorté finalement, jusqu'à ce qu'on assiste à un autre congrès qui a deux courants maintenant. Que dit Pascal Agbogbo, qui est le fils?
Juste rappeler que Pascal Agbogbo, c'est l'un des fils de Maître Yovi Agbogbo.
Monsieur Nador? Oui, avocat comme son papa.
Oui.
Vous savez, dans ce genre de choses, le gars voulait être assez discret. Et comme on a eu cette difficulté, et la chance qu'on a eue, c'est que les présidents fédéraux nous ont proposé une transition. Et au cours de cette transition, nous devons utiliser tous les canaux pour voir comment on va régler, est-ce que, et quand on va s'entendre, eh bien, on ira à un congrès extraordinaire, parce que nos tests ne prévoient pas une réouverture de congrès. On ira à un congrès extraordinaire. Maintenant, moi, je ne peux pas, et sur cette antenne-là, donner la position de Pascal, parce que une des missions qu'on nous a confiées, c'est de prendre les contacts partout où on peut le faire pour qu'on revienne dans les rangs et qu'on aille à ces élections-là ensemble.
Merci. Comme vous avez évoqué les présidents fédéraux, je rappelle que il nous a été rapporté que le congrès réouvert le 27 mai a été l'œuvre de 33 présidents fédéraux qui ont signé une pétition sur laquelle votre camarade Conlani s'est basé pour réouvrir le congrès du 27 mai. Et également, l'autre sens, c'est que cela estimait que si le cas ne tenait pas un congrès pour renouveler ses instances au plus tard le 30 mai 2023, ce parti, le cas, risquerait de tomber dans la forclusion. C'est l'esprit qui les a guidés à aller au
congrès. Cet esprit-là n'est pas justifié.
Merci.
Pourquoi?
Oui,
permettez que je dise deux mots là-dessus. J'ai dit que la disposition pour les deux tiers, ça existe dans nos statuts. Maintenant, quand vous rassemblez les deux tiers, vous déposez le dossier sur la table du Bureau national. Le Bureau national étudie les dossiers pour voir si c'est régulier. Si c'est régulier, il fait un rapport au comité directeur. Le comité directeur aussi étudie, dit c'est régulier. Et c'est le comité directeur qui instruit le Bureau national, convoque le congrès extraordinaire que demandent les pétitionnaires. Colani n'a pas fait ça. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas régulier. Mais là-dedans, sur les 33, là, moi-même, je connais même nos présidents fédéraux. Il y a au moins 7 qui n'ont pas signé régulièrement.
Je vous invite à réfléchir sur quelque chose que Michel disait tantôt. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez que l'acte du 27 mai est vraiment réversible? Est-ce que vous pouvez déclarer ça?
Je crois qu'il doit l'être. Okay. Et c'est pour ça qu'on travaillera pour
Merci.
Ça.
Merci. L'histoire nous situera là-dessus. Alors, très rapidement, il est dit à 11h49. C'est le 1er juin, le lancement solennel de la campagne de reboisement national pour cette année. Le dialogue, plutôt la nouvelle tribune. La nouvelle tribune qui nous rappelle, 1er juin, mettre en terre au moins 15 millions de plants en 2023. Canal D le dit la même chose. Et que Ouara le vainqueur nous rappelle que planter un arbre, c'est bien. Mais Michel, c'est l'entretenir qui est encore mieux.
Oui, je pense que c'est une formule simple qui permet de rappeler à tous ceux-là qui ont qui ont déjà ou qui sont en train de planter un arbre actuellement, qu'ils ont l'impérieux devoir de l'entretenir, de l'arroser et convenablement pour qu'il puisse grandir et contribuer donc à la lutte contre le réchauffement climatique, contre les, comment on peut l'appeler, pour participer, disons, à la protection de l'environnement et tout. Et donc, parce que nous avons constaté, de par le passé, qu'il y a des hectares qui sont pris d'assaut les 1er juin, où on voit des gens planter des arbres. Et 3 mois après, vous retournez là-bas, il n'y a rien. Et donc, je pense que depuis quelques années, il y a une prise de conscience. Et le ministre Folie Bazi le rappelle à tout instant qu'il ne suffit pas de planter un arbre. Les 1 milliard d'arbres qui sont, en tout cas, projetés par son ministère à être plantés d'ici 2030, je pense que ces arbres, on ne peut pas les planter et se disperser, se partir comme ça. Et donc, il faut quand même que ce soit allumé à l'intérieur du pays. Il faut que nous fassions donc cet effort-là de bien arroser, de bien entretenir donc ces arbres-là. Parce que vous savez, cette année, c'est pas c'est l'homme, le journal de l'homme qui le dit, il y a 15 millions d'arbres. L'année dernière, je pense que on avait planté autant, et contre 3 millions en 2021.
Oui.
Voilà, donc ça veut dire que ça va crescendo. Et c'est ça qui prouve que les Togolais ont adhéré donc à cette politique, en tout cas à cette campagne nationale de reboisement. Maintenant, comme nous avons tous adhéré à cette politique du gouvernement, il faut que nous fassions l'effort d'entretenir ces arbres-là qui vont à moyen long terme aider à lutter contre beaucoup de fléaux, notamment le réchauffement climatique et les érosions aussi par ici par là.
Merci. Les 15 millions d'arbres au minimum, c'est ce que le ministre de l'Environnement, des Ressources Forestières, Folie Bazi, avance. Mais vivement que chacun s'approprie cette journée et que chacun plante et que nous dépassions les 15 millions, pourquoi pas aller les 150 millions.
Oui, tout à fait. Vous savez, je crois que l'ambition, elle est noble pour le gouvernement parce qu'on parle quand même d'un milliard d'arbres d'ici 2030. C'est grand, c'est noble. Mais pour moi, que ce soit les 15 millions ou le 1 milliard en question, c'est des chiffres. Ça voudra dire quoi? En réalité, il ne suffit pas, juste Michel l'a dit tout à l'heure, de mettre en terre un arbre et puis considérer cet arbre comme déjà un acquis. Parce que à quoi ça sert? Si 3 mois après, tu retournes sur le terrain et que tu ne retrouves pas l'arbre, ça voudra dire qu'en réalité, on peut beau mettre un certain nombre de plants, mais qui ne vont pas prospérer, ne vont pas grandir. Ça voudra dire que ça fausse les chiffres. Et c'est en cela que nous avons l'obligation morale, sinon le devoir d'entretenir ces arbres. Moi, heureusement, avant de venir vous rejoindre ici, j'ai dû faire un tour, n'est-ce pas, là où j'ai planté mon arbre en 2021. Et j'ai été agréablement surpris que ça, l'arbre me dépasse largement. Ça fait plus de 2 mètres de haut. J'ai dit, mais tiens...
Et toi, tu fais 1,60
mètre, non, pas 60. Ça, je vais me fâcher.
Est-ce que depuis 2025, c'est aujourd'hui...
Non. J'ai l'habitude de dire ça à mes amis. Heureusement que j'ai planté là où je peux visiter le coin très fréquemment. Et donc, tout au long des rails de Adéwi, je suis allé là-bas. Franchement, c'est bon que chacun plante un arbre, mais c'est encore plus utile de l'entretenir. Sinon, on n'aurait rien fait du tout sur toute la ligne.
Merci. Oulo.
Oui, ce que Magloire dit est pertinent. Je crois que c'est en ce sens que le gouvernement est en train d'initier également la mise en place des chaînes de valeur au niveau de l'environnement et initier des emplois verts. Parce que tant qu'on n'intéresse pas la population, les individus à l'entretien des arbres, ça ne servira à rien d'implanter. On pourra implanter même 200 millions, 300 millions en un an. Mais tant que les gens ne sont pas motivés à entretenir ces arbres, ça ne servira à rien. Et c'est pourquoi je salue cette initiative, parce qu'aujourd'hui, avec les emplois verts, vous avez des gens qui peuvent en tirer des bénéfices, parce qu'aujourd'hui, on a également le chômage. Il faut qu'on amène les jeunes à comprendre qu'on peut gagner de l'emploi, générer des revenus à partir des emplois verts et créer des pépiniéristes. Je crois que c'est un peu ça qui est en vogue, et ça va beaucoup aider dans cette dynamique que le gouvernement a d'avoir 1 million d'arbres d'ici 2030.
Un milliard,
autant pour
merci.
Moi.
Merci. Alors, du reboisement à l'agriculture, le pas est vite franchi. Hier, la capitale a abrité une table ronde rassemblant des hommes d'État, des chefs d'État et leurs plénipotentiaires sur la problématique des engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest. Nous avons depuis connaissance du communiqué ayant sanctionné la rencontre. Cette table ronde de Lomé qui accouche des approches de solutions, comme le rappelle le dialogue. Voilà les vainqueurs, c'est le sujet même à la manchette. Lomé accouche d'une feuille de route pour renforcer l'agriculture en Afrique de l'Ouest, sécuriser l'avenir à travers la production des engrais. Harakiri aussi parle de l'accès à l'engrais au menu des échanges. Mais de ces engrais, nous venons à une certaine polémique dans le monde du soja depuis ces derniers temps. Et Canal D, c'est ce sujet que tu nous rappelles, Togo Soja, le paradis pour une partie du personnel, mais l'enfer pour les autres.
Oui, ça, vous savez, le Togo a décidé d'industrialiser son économie et on a mis en place la plateforme industrielle d'Aditikopé. C'est au sein de cette plateforme que a été installée la société Togo Soja, qui va aider à transformer le soja, parce qu'on s'est rendu compte que si nous sommes uniquement dans l'exportation, cela ne va pas nous arranger. Il va falloir que nous mettons en place des structures pour aider à la transformation.
Donner plus de valeur à nos produits.
Sauf que lorsque vous mettez une telle structure en place et vous avez des individus avec lesquels vous travaillez, il y a un minimum de conditions de travail qu'il faut mettre en place pour que tout le monde se sente, je crois, impliqué dans le travail qui est fait là-bas. Mais selon le recoupement, au niveau de l'équipe dirigeante de Togo Soja, on ne l'a pas compris de cette manière. Et pourquoi je le dis? Quand vous abordez uniquement la question des structures sanitaires, je veux parler des toilettes et des WC toilettes au niveau de Togo Soja, c'est uniquement le bloc administratif qui a des toilettes à l'intérieur. Tout le reste du personnel, vous avez les ouvriers, les manœuvres, les agents de sécurité, les agents de nettoyage, ils n'ont pas de toilettes. Quand vous arrivez à Togo Soja, même quand vous êtes un visiteur, vous avez envie d'uriner, vous allez dans la brousse. Vous avez un besoin d'aller aux toilettes, vous allez dans la brousse à l'abri des regards indiscrets. Comment on peut comprendre qu'une telle structure comme ça, il n'y a que le bloc administratif qui a droit aux toilettes? C'est inacceptable et inadmissible. Pire, l'eau de boisson, simple eau de boisson, je vous dis qu'il n'y en a pas. C'est uniquement le bloc administratif qui a des bonbons d'eau. Et le reste, je l'ai mis dans l'article, c'est un vieux tank désaménagé où vous avez une eau qui n'est pas comestible, que les gens se permettent de boire parce
ça,
que...
c'est au sein même de la société.
Au sein de la PIA.
Alors que la filière même crie, notamment les négociants qui se plaignent, qui se retrouvent avec des cargaisons de soja sur les bras à ne pas savoir quoi en faire. Et ils ne peuvent pas vendre à Togo Soja. Et ils n'ont pas non plus l'agrément pour vendre à l'extérieur. Sujet intéressant sur lequel nous sommes permis hier d'interpeller doublement les ministres de l'Agriculture et son collègue du Commerce, avec l'espoir qu'ils sortiront de leur bureau pour éclairer l'opinion. L'autre sujet également qui nous intéresse tous, c'est la communication.
Tu vois, c'est tout le problème du Togo. Ça dit que ce que tu dis là, ça c'est un problème. J'ai eu vent de ce qui se passe dans le soja et surtout à Pia là-bas. Depuis
quelques jours,
à la PIA, voilà. C'est autant pour moi. Mais par rapport à justement ce problème de soja là, normalement, les deux ministres, comme tu l'as dit, devaient prendre le micro, devaient nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. L'opinion a besoin de savoir. Mais bon, c'est vous, c'est Canal D, vous essayez, vous les avez interpellés ici pour quoi faire? Sachant pertinemment qu'ils ne viendront pas, qu'ils ne diront rien.
Pas nécessairement chez nous, mais qu'ils sortent un communiqué.
Mais c'est ça, c'est anormal.
Qu'ils rencontrent les acteurs de la filière soja.
Mais et qu'ils expliquent l'opinion. C'est leur devoir. C'est pas, on ne les supplie pas pour ça. C'est leur devoir d'expliquer aux populations que voilà, par rapport à ce qui se fait ici, voilà ce que nous sommes en train de faire pour ramener le calme, tout ça. Et rien. Ça dit que c'est du mépris pour les populations. On ne dit rien aux gens, c'est pas normal. Ça dit, s'ils sont des commissaires du gouvernement, lorsqu'il y a un problème, il faut expliquer à la population, donner la bonne information pour vraiment disperser les énergies. Vous voyez? Mais ce n'est pas pourquoi j'ai pris encore le micro. Parce que il y a beaucoup de sujets aussi dans le passé sur lesquels les gens ont fait du charlatanisme, les gens racontaient leur vie, alors que il y a des gens commis pour ça qui devaient expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas normal.
Merci. Nous entretenons l'espoir qu'ils sortiront de leur bureau pour situer ceux qui sont les protagonistes de cette filière sociale.
On va applaudir au moins venu.
Merci. Et là, on va terminer avec cette dernière sortie de l'ARCEP, l'autorité de régulation dans le secteur de la poste et des télécommunications, qui vient de mettre encore en demeure Emouv Togo Africa et Togo Cellulaire, qui ont 6 mois pour rectifier le tir. À quel niveau ça ne marche pas?
Selon le communiqué, c'est toujours des manquements en ce qui concerne la qualité de service. Ça voudra dire que le cahier des charges qui est à même adressé à ces deux opérateurs est un cahier des charges qui, selon l'ARCEP, n'est pas respecté en ce qui concerne la qualité de service. Donc hier, ils ont sorti un communiqué pour informer ces deux opérateurs qu'ils sont quand même mis en demeure. Mais attention, il y a une chose, parce que le commentaire que je voudrais faire par rapport à ça, et ça fait quand même plusieurs communiqués de l'ARCEP justement qui interpellent les deux opérateurs sur la qualité de service. Nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens...
Il est midi passé, souffre que je t'arrête dans ton élan. On lira l'article pendant ce temps. Les auditeurs se préparent à nous rejoindre bientôt. 93.5. Canal FM. Eh bien, il est midi passé de 7 minutes. Vous nous avez écoutés. À présent, c'est nous qui nous mettons en place pour recevoir vos commentaires, vos questions. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet que nous avons exposé. Premier auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
C'est Nicolas Agbo.
Nicolas Agbo.
Oui.
Sûrement du cas.
Oui, bien sûr.
Ah, vous avez écouté
votre
camarade.
Je vous salue vos collègues.
Merci Nicolas.
Oui, je voudrais intervenir dans l'émission et par rapport surtout à ce que mon frère et ami Nador vient de dire sur le congrès du CAR. Lui-même, il vous a dit tout à l'heure que le rapport qu'ils ont déposé a été signé par le rapporteur de la commission spéciale. Alors, si on organise un congrès, est-ce que c'est le rapporteur d'une commission qui dépose les dossiers? Nous n'avions adopté aucun texte de trace. Mmh. Même les travaux en commission, on devait organiser une plénière pour adopter les textes, ça n'a pas été fait. Mais on n'a même pas organisé une plénière pour prendre aucune décision. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a décidé d'une transition? C'est ce que M. Colani a constaté, et surtout avec ses investigations, qu'il a compris que s'il ne le fait pas, le parti disparaîtrait. C'est pourquoi il a saisi l'opportunité que les présidents fédéraux lui ont offerte pour pouvoir rouvrir le congrès. C'est ça la réalité. Mm-hmm. Personne n'a décidé d'un congrès, d'une transition au cours de ce congrès. Vos collègues étaient là, tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est la vérité que je voudrais rétablir.
Merci beaucoup Nicolas Agbo. C'est cette vérité justement qui nous est très chère dans les débats à polémique. Merci Nicolas. Voilà. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Commis.
Commis.
Je fais le maximum depuis le jeudi passé.
Vous voulez parler un peu plus fort, Kwame?
Oui, c'est parce que je suis énervé que je parle si bas. Mm-hmm. De ne pas insulter les leaders de l'opposition. Parce que ce que vous nous faites là, ça fait très mal. Je ne suis pas de votre parti, mais ce que je suis en train de constater là, ça nous fait très mal. Moi, j'ai connu le cas quand on a démarré nos années universitaires en 2007. Et il n'y avait pas assez de désordre, comme je viens de le constater ces derniers moments. Maintenant, je vous pose trois questions. Vous êtes dans l'optique d'une transition de 2 ans. Or que décembre, nous irons à une élection législative où le cas doit être représenté pour que ce que nous avons dans la législature présente là puisse partir. Dans cet ordre de transition de 2 ans, quand est-ce que vous allez mettre vos ténors en ordre de bataille pour pouvoir gagner des sièges? Deuxième préoccupation, vous avez insinué tout à l'heure qu'il se peut que les relations personnelles avec M. Boukwissi du feu Agboibo peuvent être des failles pour diviser votre parti. Si vous êtes conscient de ce fait, pourquoi ne pas conscientiser vos frères de lutte pour que la division n'y ait pas? Troisième préoccupation, pour terminer, nous sommes au Togo et nous connaissons les rigueurs de l'égalité de ceux qui nous dirigent. Vous prétendez que si le 30 mai passe, votre parti va toujours exister. Si c'est le cas contraire, qu'allez-vous faire? Merci.
Merci beaucoup, Kwame. Troisième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Monsieur Senghor.
Mon frère.
Nous écoutons.
Nous
vous recevons mal.
Je vous ai parlé de notre grand-père. Bon, c'est vrai. Je le connais, un homme sympa, un homme qui aime son prochain, qui ouvre la mèche autour à son prochain, c'est ce qui est important. Vraiment, ce n'est pas la garde de Dieu qui l'a occupé, qui fait pour que nous puissions vous voyez. Bon, vous savez, en toutes choses, aujourd'hui, n'est pas là. Nous devons savoir que tout passe. Et dans la vie, chaque chose a son temps. Il a pris le temps, il a occupé ses poules, mais ce qui est important, c'est l'impact. Hein, vous savez, quand on met quelqu'un dans la tombe, le dernier mot qui se dit, c'est pas de quelqu'un, les gens qui sont venus sur le terrain, c'est qu'ils nous accompagnent. Vraiment, aujourd'hui, il est parti. C'est pour aller rencontrer le vrai Dieu, qui est Dieu, pour rendre compte à Dieu de tout ça, de ce qu'il a donné sur la terre. C'est ça. Bon, deuxième préoccupation, ça. Si nous parlons de la terreur, nous voulons que la famille Yassine, pas pour Yassine quitte le pouvoir, il y a de la terreur. C'est vrai. Mais l'opposition, eux qui eux-mêmes, alors, c'est, ne veulent pas la paix, non. Hein? Je vous en fais le réitérer. Que c'est ceux qui se disent au Togo. Et ils ne veulent pas la paix, non, à leur parti politique. Mais c'est ça qu'il y a quelqu'un qui avait dit que, faire semblant de mourir, pour voir ce qui va se passer.
Non, faire semblant de partir seulement, faire semblant de quitter la tête du Uni, on voilà. Va voir ce qui va se passer.
Il va se passer. Mm-hmm. Vous voyez. Ça dit que ça va se passer aussi, c'est pas le Togo. Les gens qui se disent des opposants. Maintenant, ce n'est plus ça, c'est leur vente. Mais comment est-ce que vous comprenez comme ça? Eh, monsieur Tass, nous sommes là pour un petit temps.
Merci, merci, l'ami évangéliste Senghor. Merci, merci beaucoup de laisser la place au suivant qui s'impatiente en ligne. Bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibiti.
Oh, je voudrais vous remercier. Parce que hier, vous avez parlé du président de la Cour constitutionnelle. Et quelqu'un venait de partir. Permettez-moi, vous ne l'avez pas évoqué aujourd'hui. Quelqu'un venait de parler des injures. Ah, oh, quand quelqu'un meurt, il faut cesser de l'insulter. Est-ce que celui-là, il n'a pas rendu service à des gens? Moi, c'est un frère, mais tous ceux qui s'agitent, il est rendu. Monsieur, mon directeur, là où vous êtes, les gens peuvent parler mal de vous. Mais c'est sûr que vous avez rendu service aux gens. Donc, ça, il a rendu service, par exemple, chez nous ici. Quand il pleut, ce monsieur là vient. Bien que ce soit des choses que les gens en Cotokoli, on l'insulte, on dit qu'il a acheté des cimetières, tout ça là, qu'est-ce qu'il y a? Il est parti. Parce que son père, vous n'allez pas. Le évangéliste encore venait de passer. L'homme de Dieu, hein, il ne faut pas le maudire. Vous l'avez beau maudire, il est là-bas, venez voir.
Merci, merci, Papa Sibiti. De toute façon, les œuvres d'Abudu Asuma le suivront, comme ce sera notre cas quand nous quitterons le monde des vivants. Le suivant, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui.
C'est Richard depuis Copenhague.
Oui, Richard, nous vous écoutons.
Cette semaine, je suis riche.
Mm-hmm.
Oui, j'aimerais poser la question. Pour une fois, je vais me prononcer sur la politique. J'aimerais poser une question à notre deuxième vice-président du CAR.
Oui.
Je pense que, à mon avis, hein, ils sont allés à l'école des Maliens. Parce que 3 ans de transition, encore 2 ans. Et il y avait une autre transition qui était en cours. Bravo, bravo pour eux. Ben, ils ne savent pas, ils ne voient pas que ce qu'ils ont semé, c'est ce qu'ils sont en train de récolter. Ils ont passé tout leur temps à mentir cette population. Voilà, au sein de ce parti, ce qui se passe. C'est totalement déplorable. Merci.
Merci beaucoup, Richard, depuis Copenhague au Danemark. Le suivant, bonjour. Allô, l'ami.
Oui, allô, bonjour, Sass.
Oui, c'est monsieur.
Monsieur Charles Thierry de Gomé.
Charles Adi de Gomé.
Oui.
Oui, nous écoutons.
C'est de m'apprécier un peu sur la situation de l'opposition togolaise aussi.
Mm-hmm.
Même quand, je ne sais pas si je suis de l'opposition ou pas, il y a forcément un parent, un proche ou un ami qui fait partie donc de l'opposition togolaise,
mm-hmm.
d'un parti de l'opposition.
Oui.
Et l'opposition togolaise a traîné tous ses partisans droit au mur. Il les a vraiment bluffés et les a menés à l'abattoir. Hein. Ce qui se traîne maintenant, c'est que même ils sont conscients. Conscients que personne, aucune bouche ne se lèvera après une élection pour dire que Uni ou bien le parti au pouvoir a volé l'élection. Dans cette situation, qui peut voler encore l'élection. C'est-à-dire, nous avons l'air de vérifier. Elle a que pouvoir. On va nous gamboner. Elle a pouvoir. Soit un adjo. Donc, l'opposition de Gaulle vraiment fait honte aujourd'hui. Et qui cesse de bluffer les Togolais. Moi, je crois que quelque part, il faut demander à monsieur qui est avec vous là-bas, est-ce qu'ils ne sont pas complices de la situation? Parce qu'on se connaît ici au Togo. Est-ce quelque part, ils ne sont pas complices de la situation actuelle? Ils ne sont pas complices de ce qui se passe? Hein, pour donner voix libre à tout le temps à l'Uni. Nous, on court derrière eux que c'est comme ça, il va changer un jour viendra Dieu, va nous aider. Mais si celui qui conduit, celui qui est dans la locomotive, sait où il nous amène, et nous, dedans, nous prions autre chose là, est-ce que Dieu peut nous sauver? Non.
Merci,
non.
Merci beaucoup, Charles. Nous allons prendre un dernier auditeur pour laisser le temps à notre invité de vous répondre. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui. Mm-hmm. J'aimerais aborder dans le message que l'éditeur.
Mm-hmm.
J'ai posé la question à mon grand frère Ernie. Il faut combien de temps pour organiser la transition? Il y a combien de mois, combien d'années que le maître Agbogbo est décédé? Ils ont besoin de combien de temps pour organiser sa situation? Et moi, je crois que c'est le même esprit qui avait poussé maître Agbogbo à revenir, reprendre la main lorsqu'il a cédé le parti à maître Agbogbo. Ce sont les mêmes esprits qui sont en train de diriger ce parti. Si Maître Pévo était parti, ne serait-ce qu'avec 2 personnes, le car était diminué. Et ils vont encore diviser ce parti-là. Pour quelle fin? Pour quel résultat? Et c'est uniquement la présence de ce parti qui fait ça. Lorsqu'ils auront des pots de ministres à distribuer, qu'en serait-il? Ils vont tuer des Togolais? Mais c'est pas sérieux. Moi, je suis natif de Yoto. Je n'ai pas été membre, j'ai été séparé du car. Et ça, c'est mal. Ça, c'est mal, vraiment mal. Qui se ressaisit, c'est pas tout bon.
Merci beaucoup à vous tous. L'ami Nador, vous avez écouté nos chers amis auditeurs au bout des ondes.
Oui, non, je voulais d'abord réagir par rapport à l'intervention de mon collègue Nicolas Agbo.
Oui.
Non, le document, et c'est ce qui a été toujours fait, hein, le document qui a été rédigé par la commission spéciale est co-signé par le rapporteur de la commission et le président de la commission spéciale, qui est le président Colani. Les documents sont là. Les deux signatures sont là-dessus. Le second a été signé par le président Colani lui-même, seul. Donc, maintenant, la décision a été annoncée à la plénière. Et c'est Agbo qui a conduit la fronde.
Votre camarade.
Oui, qui la fronde de contestation. Je vous assure, si vous le voyez le jour là, vous n'allez plus le reconnaître. Et c'est pour ça que tellement il était concentré sur ce qu'il voulait faire, qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une acceptation, une grande acceptation qui se manifestait quelque part. Mais non, moi je ne vais pas me reverser dans la polémique. C'est ça, ça veut dire que le président Colani n'est pas un enfant. Il ne peut pas aller déposer un document irrégulier. Merci. Ensuite, par rapport aux autres,
oui.
Je réponds pour dire que, vous savez, la vie a toujours des hauts et des bas. Et quand vous avez une institution pareille, surtout politique, dirigée par une personnalité d'un niveau donné, sa succession, généralement, on dit que c'est difficile. Mais nous avons fait l'effort, et j'ai dit quelque chose ici, que j'avais prévenu les gens que ils étaient libres de manifester leurs intentions, mais de ne pas le faire à l'excès. C'est cet excès-là qui nous a conduit là. Et la transition, quand vous êtes dans une situation difficile, ça permet que je donne un exemple, hein, même si ce n'est pas correct.
Très rapidement.
Le chef de l'État, Adema, est décédé. Nous savons comment sa succession a été organisée. Le peuple togolais a dit non, ce n'est pas régulier. Ce qui est régulier, il faut le faire. Le peuple s'est manifesté. Le chef de l'État a compris, il s'est retiré. On a mis quelqu'un qui a conduit un intérim, qui a organisé les élections, qui a amené à désigner un autre président, même si on estime que l'élection n'a pas été correcte. Ça veut dire que le processus a été corrigé. Et nous disons qu'il y a eu crise pendant le Congrès.
Oui.
Et les gens ont proposé une autre façon de conduire et de gérer la crise pour qu'on retourne à un congrès extraordinaire. Je crois que ce n'est pas superflu et ce n'est pas exagéré.
Merci Nador Aoukou. Nous avons réussi. Après Nicolas Agbo, lundi c'est vous aujourd'hui. C'est vrai que l'idéal aurait été de vous recevoir, vous deux ensemble. Nous allons y arriver prochainement, peut-être avec le cas ou avec un autre parti politique. Nous sommes à la fin de cette émission. Souffrez que l'émission s'arrête ici. Nous vous retrouvons demain, vendredi, à 11h.